Je vous invite à lire à l'évangile de Jean, au tout début de cet évangile, au chapitre 1, les versets 1 à 5. Ce texte se trouve dans les Bibles bleues sur les bancs, à la page 1188. Jean 1, versets 1 à 5. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Amen. Peut-être que de temps en temps, en quittant Paris, vous avez l'occasion la nuit d'admirer un ciel étoilé. À Paris, c'est compliqué. Quand on commence à s'intéresser à la réalité astronomique derrière ce ciel étoilé, je ne sais pas pour vous, mais moi ça me donne le vertige. Par exemple, savez-vous à quelle distance de la Terre se trouve l'étoile la plus proche de la Terre après le Soleil? Alors il s'agit de Proxima du Centaure, et elle est située à 4243 années-lumière de la Terre. Donc en allant à la vitesse de la lumière, ce qui est assez rapide, eh bien il faudrait plus de 4000 ans pour y arriver. Quant aux dimensions de chacune de ces étoiles, alors là c'est presque encore plus ahurissant. Et je ne vais pas me lancer dans un long exposé sur ce sujet. Ça donne le vertige quand on prend conscience de cette réalité immense et qui nous dépasse tant. Dans un sens, je pense que l'intention de l'apôtre Jean au début de son évangile est un peu de nous donner le vertige, de nous donner un petit aperçu d'une réalité qui nous dépasse, mais qui nous concerne. Alors que les trois autres évangiles, Matthieu, Marc et Luc, commencent leur récit sur Jésus avec ce qui était visible, la naissance de Jésus, son ministère, ses échanges avec ses disciples, eh bien l'apôtre Jean, lui, commence avec l'invisible, et même, on pourrait dire, avec l'inconcevable. Ce dimanche, nous commençons une série de l'Avent, cette période de 4 semaines qui nous prépare à Noël. Et nous allons traverser, pendant 4 dimanches, donc, ce texte extraordinaire que on appelle traditionnellement le prologue de l'évangile de Jean, c'est-à-dire les versets 1 à 18 du chapitre 1 de cet évangile. Et ce matin, nous considérons donc les 5 premiers versets, et je vous suggère que l'idée clé qui en ressort est la suivante: Jésus est Dieu, et nous avons un besoin total de lui. Jésus est Dieu, et nous avons un besoin total de lui. Nous allons considérer cela en 2 temps. Jésus, Dieu éternel, les versets 1 à 3. Et Jésus, Dieu essentiel, les versets 4 et 5. Jésus, Dieu éternel. Je le disais il y a un instant, l'évangile de Jean se démarque des autres évangiles. Alors que les 3 autres nous dévoilent progressivement Jésus, eh bien l'évangile de Jean commence d'emblée, dès le premier verset, par des affirmations fracassantes. D'emblée, il nous dévoile Jésus comme Dieu venu parmi nous. Comment Jean s'y prend-il pour nous dévoiler ainsi Jésus? Il le fait parce qu'un théologien a appelé le coup de génie du prologue de Jean. Jean utilise un terme, logos, qu'on traduit généralement par la parole, comme vous l'avez entendu dans la lecture du texte. Dans certaines traductions, pour conserver le masculin de l'original, on traduit plutôt par le verbe. Or, ce terme, logos, était à la fois très parlant pour les lecteurs juifs de l'époque de Jean, mais aussi pour les lecteurs non-juifs de culture grecque de l'époque de l'apôtre Jean. Et c'est ce logos, cette parole, qui nous est présentée dès le premier verset. Au commencement était la parole, ou, pour la traduction second 21 que nous employons généralement, la parole existait déjà. Une interprétation, je crois, assez juste du sens de « au commencement était la parole ». Alors que pouvait évoquer ce mot, parole, logos, pour les premiers lecteurs de Jean? Pour des lecteurs juifs, et alors qu'il est question du commencement, de la lumière, des ténèbres, eh bien la parole évoque indiscutablement le récit de la création. Dieu a parlé pour créer. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, etc. La parole est cette expression de Dieu qui vient créer l'univers et qui vient mettre l'univers en ordre. Et effectivement, il y a de bonnes raisons de penser que c'est la première intention de Jean en écrivant ces mots, c'est de faire référence à cette parole par laquelle Dieu a créé et mis en ordre toute chose. Mais pour un lecteur grec de l'époque de Jean ou de culture grecque, le logos, la parole, c'était un concept philosophique très bien connu. Dans la pensée stoïcienne en particulier, qui était très influente, la parole, le logos, c'est le fil conducteur de tout ce qui existe. C'est la force rationnelle qui donne du sens à toute chose. C'est ça qui fait que l'univers se tient. Si je voulais beaucoup exagérer, beaucoup, je dirais que c'est un peu comme la force dans Star Wars. Ne me citez pas quand même sur ce point. Ce qui tient ensemble l'univers. Dans la pensée grecque. Donc, or, Jean savait pertinemment ce qu'il faisait en utilisant ce terme au début de son évangile. Il nous parle de cette parole qui a créé l'univers, et puis il fait le lien, ça fait écho avec ce logos qui tient tout en ordre. Mais la suite du texte nous montre que Jean n'est pas en train de philosopher en disant tout cela. Il est en train de parler de quelqu'un. Et c'est au verset 17 qu'il le nommera enfin, Jésus-Christ. Ainsi, Jean dit à ses lecteurs juifs, cette parole par laquelle Dieu s'est exprimé et a créé l'univers, c'est Jésus-Christ. Et il dit à ses lecteurs grecs, ce principe qui régit l'univers et que vous croyez impersonnel, je vous annonce qu'en fait c'est une personne. La réalité de cela se trouve dans une personne, le Fils unique, Jésus-Christ. Nous sommes là face à un de ces textes à propos de Jésus, où, si j'ose dire, ça passe ou ça casse. Jean nous dit quelque chose de soit vrai, soit totalement absurde. Jésus est Dieu. Pourtant, il est distinct du Père. Au verset 18, Jean parlera de lui comme le Dieu Fils unique venu du Père. Mais il est là au commencement. Et bien sûr, c'est une expression qui évoque les premiers mots de la Bible, Genèse chapitre 1. Or, au commencement, quand Dieu commence à créer, il n'y a personne d'autre que Dieu. Jean 1, verset 1 nous dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » Paul l'a lu tout à l'heure en introduction. « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » Il n'y a personne d'autre que Dieu. Et pourtant, la parole est là. Elle est, verset 2, « Au commencement avec Dieu est la parole. » Et la parole était Dieu. Et au cas où on avait encore un doute sur ce que Jean nous dit, il en remet une couche au verset 3. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ça a le mérite d'être clair. On a le sentiment que Jean veut enlever toute possibilité de voir dans cette parole une créature qui aurait eu un début, qui ferait partie de la création de Dieu. Non, rien, nous dit-il, de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Sans lui. La parole n'est pas créature, elle est créateur. Jean veut nous dire que cet homme Jésus dont il va nous parler, tout au long de son évangile, cet homme qui était son ami, eh bien ce Jésus est aussi cette parole qui existe depuis toujours. Dieu éternel. Et je l'ai dit, ça passe ou ça casse. Soit c'est n'importe quoi, soit c'est vrai. Une chose qui m'interpelle, c'est la manière dont Jean accueille le mystère de la divinité de Jésus. Il y a quelques jours, ma fille aînée, Livia, m'a demandé « Papa, je ne comprends pas bien, Dieu et Jésus, c'est le même ou pas ?» Excellente question. Et en lui répondant, il aurait été tentant d'utiliser une de ces images courantes pour exprimer le mystère trinitaire, la glace, l'eau, la vapeur, etc. Je ne dis pas qu'il faut absolument s'interdire de le faire, mais je me demande s'il ne faut pas plutôt aider nos enfants, et plus largement tous ceux qui découvrent la foi, à accueillir le mystère. Il y a une personne de cette église qui me taquine parfois parce que je parle beaucoup de mystère, elle se reconnaîtra. Dieu est qui il est. C'est nous qui avons été créés à son image et pas l'inverse. Et c'est normal que son être nous échappe et que nous n'arrivions pas à le faire entrer dans nos cases conceptuelles. Dieu se présente dans la Bible comme Père, Fils et Saint-Esprit. Et ici, Jean braque le projecteur sur le mystère, sans chercher le moindre du monde à nous faciliter la tâche, à amoindrir le mystère. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Normalement, il faut choisir, soit on est quelqu'un, soit on est avec quelqu'un. Mais Jean sait parfaitement qu'en disant les choses ainsi, il met le doigt précisément sur ce que nous ne parvenons pas à expliquer, parce que ça relève de Dieu qui est qui il est. Plus tard, les théologiens l'exprimeront ainsi. Un seul Dieu, trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, l'Esprit est Dieu. Pleinement Dieu. Ils sont distincts. Le Père n'est pas le Fils. Le Fils n'est pas l'Esprit. Et pourtant, ils ne sont pas séparés. Trois personnes, un être divin. Alors, nous pouvons dire ces choses de la manière la plus fidèle possible à ce que dit la Bible. Et je crois que c'est le défi qui nous est lancé. Dire les choses le plus fidèlement possible. Mais les expliquer, sans doute vaut-il mieux accueillir le mystère comme le fait Jean. Et encore une fois, Jean n'est pas assis tranquillement dans un fauteuil en train de faire de la mystique. Il est en train de dire à ses lecteurs qu'en Jésus, c'est Dieu qui se révèle. En trouvant Jésus, on trouve le Dieu éternel, le Dieu qui s'est révélé. Jean nous dit, vous voulez connaître Dieu ? Rencontrez Jésus. Parce que Dieu précisément a voulu se faire connaître. Or, nous avons un besoin total de lui. Et ça nous amène à notre second point. Jésus, Dieu essentiel, les versets 4 et 5. Au verset 4, Jean introduit une nouvelle notion. À propos du logos, de la parole, il poursuit « En elle, en lui, il y avait la vie ». On a vu que depuis le verset 1, Jean fait écho au récit de la Genèse. Au commencement, Dieu, sa parole, la création. Eh bien, au verset 4, il affirme que la vie que Dieu donne, on peut parfaitement la trouver dans la parole. Ce logos. Et si on reste dans la Genèse, on peut penser au chapitre 2 où il est question de l'arbre de vie. Cet arbre, nous dit le récit de la Genèse, est dans le jardin d'Éden. Ce n'est pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui sera au cœur du chapitre 3, du drame du chapitre 3. C'est un autre arbre qui, comme son nom l'indique, symbolise la vie. Or, après la faute de l'homme et de la femme. Si vous connaissez un peu ce récit, vous vous rappellerez que la fin de Genèse 3 nous dit, avec des images saisissantes, que Dieu ne permet plus à l'être humain d'accéder à l'arbre de vie. Autrement dit, en cherchant à devenir Dieu à la place de Dieu, l'homme perd l'accès à cette vie que Dieu donne. Ce n'est pas seulement la vie physique, c'est aussi et surtout la vie spirituelle. On notera que dans le récit de Genèse 3, Adam et Ève ne sont pas tombés raides morts en mangeant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est aussi un signe de la grâce de Dieu d'ailleurs. Ils sont restés en vie d'une certaine manière. Mais un peu comme un ordinateur qu'on débranche et qui fonctionne pour un temps sur batterie, l'être humain a encore de quoi tenir un certain temps, sans cette vie perpétuellement renouvelée par Dieu. Et Dieu, dans sa grâce, continue à prendre soin de lui. Mais la vie véritable, la vie qui surabonde et qui ne s'épuise jamais, cette vie que Dieu lui-même a en lui, ils l'ont perdue. L'accès à l'arbre de vie leur est interdit. Peu à peu, nos forces physiques s'épuisent. Mais plus grave encore, la rupture avec Dieu implique la rupture de la communion spirituelle avec lui, la relation de vie avec Dieu. Et c'est cette mort-là, la mort spirituelle, qui est la plus grave, sans minimiser la mort physique. Quand on se détourne du Dieu de la vie, il ne reste plus que la mort. Mais dans notre texte, Jean estime de la première importance de nous dire qu'en Jésus, il y a la vie. En Jésus-Christ, dans ce Logos qui existe depuis toujours, l'homme peut trouver, retrouver ce dont il a tant besoin. En Jésus, il y a à nouveau accès à l'arbre de vie. Ce n'est pas pour rien que tout à la fin de la Bible, Apocalypse 22, l'arbre de vie est là, à nouveau, au milieu de la ville, accessible à tous. Et dans la suite du verset, Jean introduit une autre image qui évoque elle aussi le récit de la création, l'image de la lumière, qui au verset 5 est placée en contraste avec les ténèbres, l'obscurité. La lumière brille dans les ténèbres. Mais les ténèbres ici ne sont pas simplement l'absence physique de lumière. Les ténèbres sont une façon imagée de parler d'un monde qui précisément s'est détourné de Dieu, s'est détourné de la vie. Dans la logique de cette image, la lumière vient de Dieu. Dieu est lumière, Jean le dit dans sa première lettre. Les ténèbres surgissent lorsqu'on se détourne de Dieu. On se détourne de la vie, on récolte la mort. On se détourne de la lumière, on récolte les ténèbres. Alors ce monde, notre monde, peut créer ses propres lumières factices. Un peu comme un éclairage électrique peut nous aider à voir un peu dans la nuit. En ce moment, le soir, il y a des belles lumières dans la rue de Sèvres, avec le nom des commerces. Ça aide quand même un peu à voir. Mais la lumière artificielle ne peut pas chasser la nuit. L'homme peut s'éclairer temporairement dans la nuit, mais ne peut pas créer la lumière. Et les ténèbres demeurent quand on a perdu la communion avec Dieu. Et donc les deux idées clés du verset 4 convergent. La vie que Dieu donne, c'est la lumière qui vient de lui. Mais la fin du verset est capitale. Verset 4, cette vie était la lumière des êtres humains. Cette précision est capitale parce qu'elle nous rappelle combien Dieu est un Dieu relationnel. Il ne garde pas sa lumière pour lui. Il veut la communiquer aux hommes. La vie qui est en Dieu, c'est la lumière dont nous avons besoin. Vous me direz peut-être que certains semblent bien se passer de Dieu. Et peut-être que vous-même, en entendant cela, vous dites « moi, je me passe plutôt bien de Dieu. Vivez des vies stables, plutôt, qui marchent plutôt bien, professionnellement, familialement, etc. » Est-ce que finalement, ce n'est pas la preuve que l'humanité peut assez bien se passer de Dieu ? Là encore, c'est vrai qu'on peut vivre, au sens de survivre, pour un temps, sans communion avec Dieu, en se contentant des petites espérances proposées par ce monde, qui sur le moment peuvent nous paraître grandes, mais qui, à l'échelle de l'éternité, du temps, de l'espace, sont bien dérisoires. On peut survivre pour un temps, sans doute, en ne mangeant que des hamburgers, des chips et des bonbons, mais ce n'est pas bon, au cas où vous aviez un doute. La Bible nous dit que l'homme est créé à l'image de Dieu et la vie pour laquelle nous avons été créés, il n'y a que lui qui peut nous la donner. Les ressources dont nous avons vraiment besoin, c'est lui qui nous les donne. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. Par Jésus, Dieu nous donne ce dont nous avons besoin par-dessus tout, la vie qui vient de lui, sa lumière qui éclaire nos ténèbres. Et donc Jean remonte à ce qu'il y a de plus essentiel pour l'humanité, au commencement, Dieu, sa parole, la création, la vie, la lumière. La clé de notre vie se trouve auprès de celui qui nous a créés. Tout se joue là. Dans son œuvre magistrale, l'institution chrétienne, le grand réformateur Jean Calvin prend pour point de départ ceci. Pour comprendre qui nous sommes, nous devons d'abord comprendre qui est Dieu. Notre identité, nous devons la trouver dans son identité, notre vie dans sa vie. Et je pense qu'il a bien compris ce que Jean veut nous faire comprendre ici. Jésus n'est pas simplement l'un de nous qui aurait eu une révélation particulière pour nous aider à nous élever vers le divin. Jésus, celui que Jean va dévoiler tout au long de cet évangile, est celui qui lui-même apporte ce dont nous avons besoin, ce dont nous avons absolument besoin. Il est le Dieu essentiel. En entrant en relation avec Jésus, nous entrons en relation avec notre Créateur, avec celui qui est à l'origine de toute chose, avec celui qui seul peut nous donner la vie véritable. J'aimerais ce matin m'adresser tout particulièrement aux ados, aux jeunes. Mais en fait, ce que je vais dire, ça vaut pour tout le monde. Donc, c'est dédicacé à vous, les ados, mais ça concerne aussi tous les autres. À quelle vie est-ce que vous aspirez ? Quelle est votre espérance ? Quelle est la vie que vous voulez, au fond, chers ados ? Elle est sans doute faite de choses raisonnables. On espère réussir ses études, sa vie sociale. On pense peut-être déjà à trouver un travail, ou pas trop encore, je ne sais pas. On pense peut-être à gagner sa vie, gagner de l'argent, rencontrer un amoureux, une amoureuse. Ces choses ne sont pas mauvaises en soi, pour certaines elles sont même très bonnes. Mais je voudrais vous inviter à écouter ce que Jean nous dit ici. En lui, il y a la vie. C'est Jésus qui a les clés de la vie véritable pour chacun d'entre nous. Et je l'ai dit plus tôt, ça passe ou ça casse. Peut-être que pour vous, aujourd'hui, les ados, ça casse encore. Et peut-être que pour d'autres qui ne sont pas ados, ça casse encore. Mais en tout cas, il y a une chose que vous ne devez pas vous dire. Ne vous dites pas que Jésus pourrait apporter un plus sympathique à vos projets de vie. Vous avez vos projets de vie, et puis en plus Jésus, si on ajoute Jésus, ça va être encore mieux. Non. Avoir de bonnes valeurs, etc. Non plus. Ce choix-là n'est pas disponible. Soit Jésus donne du sens à toute la vie, et c'est dans la relation avec lui que vous ferez vos projets de vie. Soit ce que Jean nous raconte ici est du grand n'importe quoi. Il faut choisir. Mais avant de rejeter ce que nous dit Jean, réfléchissons au fait, et là ça s'adresse vraiment à tous, réfléchissons au fait qu'il ne parle pas ici de hauts concepts abstraits. Il parle de quelqu'un qu'il a connu personnellement, quelqu'un qu'il a vu de ses yeux, on l'a entendu au début du culte, quelqu'un qu'il a entendu, quelqu'un qu'il a touché. Ce Jésus qui est mon ami, nous dit Jean, il est celui qui peut donner du sens à la vie de tous les êtres humains. Ça passe ou ça casse. Et précisément, notre texte se termine sur une note plus sombre, littéralement plus sombre. Verset 5, la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. C'est tout le drame de l'homme pécheur que Jean résume ici en quelques mots. La lumière brille pour nous, mais nous n'en voulons pas. Nous préférons nos ténèbres. Au moins, nous les connaissons. Nous pensons les contrôler. En réalité, on ne contrôle pas grand-chose, mais passons. Pourtant, la vie et la lumière nous sont pleinement offertes en Jésus. Plus loin dans le texte, Jean va préciser la bonne nouvelle. Tous ceux et celles qui veulent venir à Jésus, qui veulent, verset 11, l'accueillir, deviennent les enfants de Dieu. Et c'est le message puissant du Nouveau Testament. Par Jésus, la porte pour revenir à Dieu nous est grande ouverte. Elle est grande ouverte pour tous ceux et celles qui, jusqu'ici, n'ont pas voulu accueillir la lumière et la vie que Jésus offre. Elle est grande ouverte pour nous qui persévérons dans la vie chrétienne, peut-être depuis très longtemps, mais avec beaucoup de recul, voire peut-être de rechute. En Jésus, il y a la vie dont nous avons totalement besoin. Et peut-être que ce matin, certains sont assis parmi nous, mais leur cœur est enchaîné. Enchaîné par des choix de vie tortueux. Enchaîné par des ambitions déçues et superficielles. Enchaîné par des idéologies qui ne tiennent jamais leurs promesses. Enchaîné par des blessures spirituelles qu'ils tentent par eux-mêmes de guérir. Mais ce n'est pas en nous qu'est la vie. C'est en lui. Ce matin encore, que nous soyons chrétiens de longue date, athée endurci, agnostique insouciant, un peu croyant sympathisant, quel que soit notre profil, Christ nous appelle à chercher non pas en nous-mêmes mais en lui notre espérance. Et s'il y a une chose que Noël peut nous rappeler, c'est que Dieu n'est pas resté élevé loin de nous, il est venu vers nous parce qu'il savait que nous avions désespérément besoin de lui. Jésus, le Fils de Dieu, celui qui détient la lumière, celui qui détient la vie, celui qui est là depuis toujours, il est venu nous rencontrer dans notre réalité. Le monde autour de nous ne l'accueille pas. Mais nous qui entendons sa voix ce matin, par le texte biblique, eh bien le temps est venu ou revenu de nous tourner vers lui et de trouver en lui la vie. Amen.